Conférence en juillet 2021 à Fountain Valley. Le fardeau de la parole du Seigneur dans Malachie, message 8. Oui, Père, nous prions pour tous les saints qui participent. Sanctifie-nous encore une fois et lave-nous complètement. Que notre cœur soit ouvert à recevoir ta parole vivante. Donne-nous un esprit de sagesse, de compréhension. Et nous prions pour que tu brilles dans nos cœurs et que ta parole soit comme une épée à double tranchant qui perce dans notre cœur et qui accomplisse ta volonté partout où les saints se réunissent. Amen. Que ton nom soit glorifié et que ta volonté soit faite, Père. Amen. C'est vraiment la situation du peuple de Dieu. Même après être sorti de Babylone, vous devez réaliser toute l'histoire, tout l'arrière-plan de l'histoire. Ils étaient rebelles. Ils adoraient des idoles. Les 10 tribus, celles du nord d'Israël, sont tous partis, en fait. Ils ont été pris captifs. Ils ont été dispersés dans beaucoup de nations. Et finalement, Juda aussi. Jérusalem a été détruite. Le temple a été détruit. Et ils ont été amenés en captivité à Babylone. Ça, c'était la situation. C'est une situation horrible. Ne pensez pas que c'était bien. Je ne pense pas. Je ne sais pas si notre situation est meilleure aujourd'hui ou pas. Mais ça, c'était l'arrière-plan. Et même après 70 ans, ils sont revenus de Babylone. Leur situation n'était pas très bonne non plus. Ainsi, on peut lire ça dans Esdras, dans Néhémie. Il y avait tant de problèmes, vraiment, tant de problèmes. Et l'histoire nous dit qu'après la chute de l'Empire perse, et l'Empire grec est venu au pouvoir, et même après cela, dans le livre de Daniel, on peut voir déjà, dans ce livre de vérité, il y avait tant de problèmes parmi le peuple de Dieu, vraiment. Et ça, c'est là qu'intervient le livre de Malachie. Dieu était vraiment fâché. Il n'était vraiment pas très content, pour dire la moindre. On peut voir comment le Seigneur se sentait quand il parle. Et bien sûr, même après cette parole, il n'y a plus eu de parole de Dieu jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus a employé Jean-Baptiste. Mais regardez la situation quand Jésus, le Messie, était sur cette terre. Est-ce qu'elle était bonne? Certainement pas très bonne, n'est-ce pas? Je pense que vous pouvez le lire dans la Bible, dans les 4 évangiles. Il voulait même se débarrasser du Messie. Il voulait le tuer. Regardez ce qu'ils lui ont fait. Le Seigneur a même dit, ils me feront ce qu'ils veulent, et finalement, ils l'ont crucifié. Ce n'était pas une situation très jolie. Qu'en est-il de notre situation aujourd'hui? Pensez-y. Vous pouvez penser que c'est pas mal. Vous pouvez penser que c'est pas si mal. Je ne sais pas ce que vous pensez. Comment considérez-vous la situation aujourd'hui? C'est difficile à dire, n'est-ce pas? Il y a tant de chrétiens, tant de groupes différents. Mais je dois vraiment dire que les groupes que je connais personnellement. Qu'est-ce que je peux dire? Est-ce qu'ils continuent vraiment avec le Seigneur? Est-ce qu'ils pratiquent ce qu'ils ont pratiqué pendant 40 ans, 50 ans, pas de changement? C'est vraiment triste. C'est très triste. Il y a un groupe spécialement que je connaissais et j'ai rencontré plusieurs qui en sont sortis dans ces dernières années. C'était vraiment horrifiant d'écouter ce qu'ils avaient à dire. Qu'en est-il de notre condition aujourd'hui? Qu'en est-il de notre condition? Est-ce que le Seigneur est content de notre condition? Il faut se poser la question. Pas si toi tu es content, mais tu dois demander, est-ce que Dieu est content? Il faut réaliser que lorsque Dieu parlait au sacerdoce, il ne parlait pas seulement au peuple. Je ne pense pas que le Seigneur puisse parler au peuple, parce que si le sacerdoce est déchu, vous pouvez bien imaginer la condition de toute la nation à ce moment-là. Même les sacrificateurs ne réalisaient pas. Dieu leur dit, je vous ai aimé. Quoi? Tu nous as vraiment aimé? En quoi nous as-tu aimé? Ils n'avaient plus de sentiments. Ils ne réalisaient même pas dans quelles conditions ils étaient à ce moment-là. Il y avait tant de questions, tant de situations. Ne pense pas qu'aujourd'hui notre situation soit meilleure. J'en doute vraiment. Ce n'est pas étonnant que le Seigneur dise, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur cette terre, trouvera-t-il la foi? Tu peux dire, nous croyons au Seigneur. Alors je te demanderai, en quoi crois-tu au Seigneur? De quelle manière crois-tu au Seigneur? C'est à mon tour de vous poser la question. En quoi? Est-ce que tu lui es obéissant? Est-ce que tu entends sa parole pour toi chaque jour? Est-ce que tu as faim de lui? Est-ce que tu lui obéis? Est-ce que vraiment tu l'aimes en tant que ton meilleur amour? Nous devons tous nous poser la question. On doit tous se poser la question. Regardez Apocalypse 1 à 3. Il parle de la condition des églises. La condition des églises. Ainsi, c'est très important pour nous d'entendre ce que Dieu nous dit, pas des doctrines. Je sais que tout le monde aime les doctrines. Tu n'aimes pas vraiment Dieu, mais tu aimes les enseignements de la Bible. Et tu aimes enseigner la Bible. C'est ton hobby. Les doctrines, les enseignements, les interprétations. Qu'en est-il de l'enseignement de l'esprit, de l'onction? Est-ce qu'il y a un écho? Non. Combien de fois le Seigneur t'apparaît-il? Combien est-ce que tu lui es fidèle? Quelle est ton expérience avec lui? Si ton expérience grandit tout le temps, comment ça se fait que tu es toujours le même d'année en année? Comment ça se fait qu'on ne s'améliore pas, qu'on ne change pas? Que le Seigneur nous soit miséricordieux. Nous vivons à la période où le Seigneur va revenir pour la deuxième fois. Si tu regardes toute la situation aujourd'hui, et si ton esprit est vivant, et si le Seigneur te parle, tu réaliseras que le Seigneur revient très très bientôt. Très très bientôt. Ainsi, nous devons être prêts. Combien étaient préparés lors de la première venue du Seigneur? Pas beaucoup. Et combien, penses-tu, sont préparés parmi les chrétiens pour la deuxième venue du Seigneur? Beaucoup d'entre eux pensent qu'ils vont aller au ciel. Tous pensent cela. Ils n'ont même pas besoin de se préparer. Beaucoup de gens, j'ai entendu par Internet, beaucoup de prédicateurs disent « Ne vous préoccupez pas, nous allons tous être enlevés. » Ainsi, n'ayez pas peur, ne vous faites pas de soucis. Nous serons tous enlevés. Si tu crois de cette manière, pourquoi devrais-tu te préparer? Si toi et moi allons être enlevés juste parce que nous sommes chrétiens, parce que nous croyons au Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, louez le Seigneur, est-ce que tu es sauvé? Ah, alléluia, tu seras enlevé. Pourquoi tu dis « j'espère » Est-ce que tu n'es pas un croyant? Alors tu seras enlevé, certainement. Personne ne se préoccupe de ce que la Bible dit. Il se préoccupe de ce que le pasteur dit. Il se préoccupe de l'enseignement traditionnel. Mais qu'est-ce que nous enseignons? Bon. On continue avec le résumé pour voir ce que la Bible dit. On a parlé de sa première venue. Il est le messager de l'Alliance. Ce qu'il a accompli dans sa première venue était merveilleux, vraiment merveilleux, pour la rédemption du monde entier. Il est mort sur la croix, comme notre offrande pour le péché, pas seulement pour les nôtres. Jean dit qu'il est la propitiation pour les péchés du monde entier. C'est pourquoi quiconque reçoit le Seigneur aujourd'hui peut être sauvé, sauvé du jugement éternel. Mais tu dois quand même être sauvé complètement. Je ne pense pas que trop de chrétiens, même nous, prenons la parole dans Philippiens 2 sérieusement. Comme quoi, toi et moi, nous devons travailler à notre propre salut avec crainte et tremblement. Est-ce que tu crois cela? Oui? Est-ce que tu es dans la crainte et le tremblement? Non. Nous le croyons. Mais tu ne travailles pas à ton propre salut avec crainte et tremblement. Si nous ne travaillons pas à notre propre salut avec crainte et tremblement, Dieu ne peut rien faire. C'est comme une pièce d'argent avec deux côtés. D'un côté, Dieu travaille en toi, le vouloir et le faire, n'est-ce pas? Mais de l'autre côté, toi et moi, nous devons travailler à notre propre salut avec crainte et tremblement. Ainsi, ces deux côtés doivent travailler ensemble. Sinon, à sa deuxième venue, tu auras des problèmes. C'est pourquoi, revenons. Revenons à Malachie, chapitre 3, concernant la venue du Seigneur. Le Seigneur viendra. Mais Malachie dit, qui supportera au verset 2, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Nous aimons parce que nous pensons, je suis sauvé, il n'y a pas de problème. Mais Malachi dit, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Au verset 2. Qui restera debout quand il paraîtra? Quand il apparaîtra, il y aura son tribunal. Il viendra avec son tribunal. Et toi et moi devrons rendre compte. Quel compte vas-tu rendre? Je ne dis pas à ton compte bancaire. Certainement, chacun sait exactement ce qu'il a dans sa banque, ce qui entre et ce qui sort. Et j'espère plus ce qui entre que ce qui sort. Mais se rendre compte de ta vie, et spécialement les sacrificateurs doivent rendre compte. Je ne peux pas assez accentuer pour chacun de vous que le sacerdoce est si important dans le plan de Dieu. Tu peux ne pas le réaliser. Peut-être que tu ne te considères pas comme sacrificateur. Beaucoup de chrétiens, si vous leur dites « tu es un sacrificateur », ils diront « non, j'en suis pas ». Alors, si tu n'es pas un sacrificateur, qui l'est? L'Église catholique? Presque tous sont prêtres, ils s'appellent prêtres. Je n'ai pas vu de groupe chrétien qui s'appelle prêtre. Est-ce que toi, tu as vu cela? Des prêtres pentecôtistes, des prêtres baptistes, des prêtres épiscopaliens? Oh, peut-être ils s'appellent prêtres. Je ne sais pas s'ils le font. Mais peu importe comment ils s'appellent, mais qu'en est-il de toi? Es-tu un prêtre, un sacrificateur? Est-ce que tu es de la tribu de Lévi? C'est une question très importante parce que cette parole, il l'a dit particulièrement aux Lévites, à la tribu de Lévi. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur. Sa venue, il vient avec le feu du fondeur. C'est exactement ce que Paul dit. Faites attention comment vous bâtissez. Parce que si tu bâtis avec du bois, du foin, du chaume, tu auras des problèmes. Parce que ce jour, quel jour? Le jour de la venue du Seigneur sera comme un feu pour tout brûler. Ce qui est ce qui peut brûler. Le bois, le foin, le chaume, la chair, tout ce qu'on emploie pour nous, ça peut être brûlé. Et ça veut dire, oui, ça veut dire ça sera brûlé par le feu. Ça sera complètement détruit par le feu. Rien ne va rester. Pourquoi penses-tu, d'où penses-tu que Paul a eu cela? Si tu bâtis avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ce sont les matériaux qui n'ont pas peur du feu. Parce que plus il y a du feu, plus la température est élevée, plus l'or sera raffiné. L'argent sera raffiné. Qu'est-ce que nous bâtissons aujourd'hui? Le dernier livre, dans les sept églises, là, dans Apocalypse 2 et 3, au chapitre 3, le Seigneur dit, « Combien d'or as-tu ?» Ils pensaient qu'ils en avaient. Mais le Seigneur dit, « Non, vous n'en avez pas. Il faut venir à moi et acheter de l'or. » Est-ce que tu t'es déjà demandé combien d'or tu avais? Si je demande, combien tu as à la banque? Probablement que tu sauras plus ou moins, approximativement. Mais si je te demande aujourd'hui, combien de cet or raffiné, divin, avons-nous? Que vas-tu me dire? Ou que vas-tu lui dire? Et s'il te plaît, dis-moi comment tu achètes de l'or. Je veux savoir parce que j'aimerais en acheter. Le Seigneur va être comme celui qui raffine l'or et l'argent ne sont pas dans leur forme pure de manière naturelle, spécialement l'argent. Il faut beaucoup de raffinement par le feu pour se débarrasser de tout mélange. Sinon, c'est très difficile pour toi de peser l'or. C'est la manière de Dieu. Et toi et moi, lorsque le Seigneur vient, il va nous raffiner. Mais est-ce que tu veux attendre jusqu'à ce qu'il vienne pour te raffiner? Non? Quand est-ce que tu commences? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu t'exerces à être raffiné tous les jours par le Seigneur pour ôter tous les mélanges, pour être purifié de tout levain? Tu sais pourquoi c'est si important pour les sacrificateurs de célébrer la fête des pains sans levain? Est-ce que tu te débarrasses de tout ce mélange dans ta pensée, dans ton cœur? Dans ton être? Est-ce que tu ôtes toutes ces choses chaque jour? Est-ce que tu observes la fête des pains sans levain? Même aujourd'hui? Est-ce que tu t'es purgé aujourd'hui? Purgé, c'est pas juste que tu souffles dessus. Purgé, vous savez ce que ça veut dire? C'est la potasse des foulants. Il y a tant de tâches là. Tu ne peux pas juste mettre un peu d'eau et puis c'est bon. Non. Il faut de l'acide. Il faut du chlore. Il faut de l'eau de Javel. Oui. Si j'ai une tache sur mon vêtements, j'essaye de l'enlever, mais je dis à ma femme, enlève-le, s'il te plaît. Elle a beaucoup de bouteilles de spray et elle peut le faire. Elle le fait tremper, elle met dans la machine, puis toutes les taches seront ôtées. La saleté. Toi et moi, nous ne traitons que des tâches visibles, n'est-ce pas? Qu'en est-il des tâches invisibles? Tu peux penser que tu es très propre jusqu'à ce que tu le mettes sous le microscope. Alors, tu vas être si surpris. Notre Seigneur est comme celui qui raffine l'or et l'argent. Ne pense pas que ce soit facile. Il va nous purifier, nous sanctifier complètement, jusqu'à l'extrême. Si le Seigneur te demande et me demande, combien est-ce que tu es saint aujourd'hui? Je ne pense pas qu'on puisse lui donner une réponse. Si je te demande comment nous sommes profanes, là tu peux me donner des réponses. Regarde ce qui se passe dans notre intelligence, dans notre cœur. Et beaucoup des décisions que nous prenons. Et combien es-tu parfait? Timo, est-ce que tu es parfait? Combien es-tu parfait? Sauvé complètement. Qu'en est-il de cela? Et combien de fois passes-tu vraiment du temps dans le Saint des Saints? Je ne dis pas juste lire la Bible. Est-ce que tu veux vraiment laisser, tu es prêt à laisser le Seigneur te raffiner? Ce n'est pas facile, parce que le feu fait mal. Est-ce que tu aimes toucher le feu? Non. Personne n'aime être brûlé. Personne n'aime être brûlé. Mais que peux-tu faire pour être raffiné, purifié? Même si tu as de l'or en toi, mais qu'il est mélangé. Je ne peux pas juste vous le décrire. Est-ce que tu aimes le mélange? Qu'en est-il de ta nourriture, par exemple, que tu manges? Tout d'un coup, il y a une sorte de poussière ou de saleté qui entre. Ou le cheveu du cuisinier. Oh, tu vas au restaurant et tout d'un coup tu vois un ongle du cuisinier. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas encore le manger? Mais pourquoi est-ce que nous mangeons n'importe quoi, de n'importe qui, de n'importe quelle source, n'importe où? J'ai toujours demandé à ma femme, est-ce que c'est comestible? Elle n'est pas très contente de cela quand je le demande. Bien sûr, je ne vais pas te donner quelque chose qui ne soit pas comestible. Qu'en est-il de la nourriture céleste? Est-ce que tu prends n'importe quoi sans discernement, sans d'abord demander au Seigneur? Tu sais, si mon cœur n'est pas pur, je ne vais rien prendre. Non, je prendrai n'importe quoi. Mais tu traites avec le Dieu vivant et juste. C'est pourquoi tant de groupes et tant de chrétiens ont des problèmes parce qu'ils croient n'importe quoi. Ils mangent n'importe quoi. Même le chien qui est mon invité, lui, il ne mange pas n'importe quoi de ce que tu lui donnes. Non, si tu lui donnes du plastique, il ne va pas le manger. Mais nous, chrétiens, ouais, on croit n'importe quoi, sauf la vérité. Lorsque la vérité est dite et qu'elle coupe dans nos cœurs, on n'aime pas cela. Paul a dit, lorsque le temps viendra, un temps viendra où ils n'auront pas d'oreilles pour la vérité, mais ils croiront les mensonges. Regarde les gens aujourd'hui, ils croient tous les mensonges. Qu'en est-il de nous? Pourquoi est-ce que je dis cela? parce que je veux réveiller votre cœur pour réaliser que nous avons besoin du feu du fondeur. Et nous avons besoin de la potasse des foulons. Le feu est pour enlever le mélange et le savon. La potasse est pour ôter toute la saleté. C'est pourquoi tu dois te laver les mains. Combien de fois pendant cette pandémie tu te laves les mains? Et chaque fois que tu touches ton chien, tu dois te laver les mains. C'est pourquoi je ne touche plus ce chien. Parce que chaque fois que je le touche, il lèche ma main. Alors je dois me laver les mains. Ne touche pas à des choses que tu ne dois pas toucher. Le Seigneur doit ouvrir nos yeux, briller sur nous. Sinon, on ne sait pas, tu ne réalises pas. Plus le Seigneur purifie ton cœur, plus tu réaliseras. Je ne dois pas toucher cela. Je ne dois pas toucher cette autre chose. Je ne dois pas penser à ceci. Je dois rester loin de certaines choses. Mais si ton cœur n'est pas pur, tu ne te préoccupes pas. Vraiment, tu ne te préoccupes pas. Ainsi, sa deuxième venue, sa seconde venue est pour raffiner et juger. Mais j'espère qu'aujourd'hui, le Seigneur va déjà commencer à nous raffiner par sa vie, par sa lumière qui brille en nous exposant, en nous disciplinant, qu'on ne devra pas passer par le feu. Par sa grâce qui nous entraîne à ne pas aimer le monde. Le Seigneur ne va pas te forcer aujourd'hui, mais à sa deuxième venue, tu n'auras pas le choix. Mais c'est mieux de le laisser faire aujourd'hui, ce raffinement. On appelle cela une œuvre de salut. C'est pourquoi on doit expérimenter Christ dans son humanité. C'est pourquoi on doit expérimenter la force dans notre homme intérieur pour ôter le vieil homme et pour revêtir Christ. Pour expérimenter Christ comme l'offrande pour le péché, comme l'offrande pour le péché. Pour recevoir la lumière de sa part aujourd'hui. Nous devons être ouverts. Oh Seigneur, parce qu'à sa seconde venue, personne ne pourra supporter, soutenir si tu n'es pas prêt. Personne. Aujourd'hui, il se peut que tu ne ressentes pas cela. Comme les incroyants, ils ne croient pas. Mais lorsque le sixième sceau est ouvert, tous, depuis le plus élevé jusqu'au moindre, auront tellement peur. Ils essayeront de se cacher partout où ils pourront. Mais ils ne pourront pas se cacher. Et ils sauront que le jour de la colère de Dieu est venu. Pour purifier et épurer particulièrement les fils de Lévi. Si tu lis Malachie 3, il est dit ici, il s'assiera en tant que raffineur et il fondra et purifiera l'argent. C'est pourquoi aujourd'hui, il est mieux d'être sauvé complètement. Le Seigneur a encore le temps de le faire gentiment chaque jour. Il est assis là patiemment. Il purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, spécialement ceux qui sont sacrificateurs. Le Seigneur a un intérêt particulier de les sanctifier, de les purifier. Je ne sais pas Parmi les chrétiens aujourd'hui, combien d'entre eux parlent d'une vraie sanctification? Que nous devons être saints et sans défaut lors de l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, être sanctifiés complètement, être épurés, être changés en son image, être conformes à son image, être parfait comme il est parfait. Nous aimons tous dire « personne n'est parfait ». Oui, c'est vrai, personne n'est parfait. C'est pourquoi tu as besoin d'être perfectionné. Et tu peux être perfectionné. J'ai lu ici quelques versets, j'ai écrit quelques versets ici. Parce que si nous attendons jusqu'à la deuxième venue du Seigneur, je ne peux même pas expliquer ce qui va se passer. Mais c'est si merveilleux qu'aujourd'hui, il purifie les fils de Lévi. Parce que c'est un groupe particulier de gens pour Dieu. Leur service pour le Seigneur est très très spécial. Et la sainteté, la pureté et être raffiné sans aucun mélange est très important. Très, très important. Et je peux vous témoigner que aucune doctrine ne va vous purifier. Ce n'est pas les enseignements, les doctrines, la connaissance, mais le Seigneur qui traite dans ta vie et qui t'expose. Le Seigneur utilise les circonstances par des épreuves de feu. Est-ce que tu réalises que tous les apôtres du Seigneur ont passé par des épreuves, des tests et des tribulations sévères, et à la fin, ils ont tous été martyrs? On ne réalise pas comme notre cœur est impur. On ne réalise pas. C'est pourquoi ce livre de Malachie est spécialement important. Seigneur Jésus, il purifiera les fils de Lévi et les épurera. Comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Si nous ne sommes pas au moins en train de chercher à être juste face à Dieu, comme dans Ésaïe chapitre 1, Dieu dit « Je ne vais pas accepter ton offrande », dans Malachie 1, elles sont souillées parce que ce peuple est souillé. Pas seulement les offrandes sont souillées, mais même ceux qui offrent sont souillés. Même le Seigneur dit, tes prières, je ne vais même pas les écouter. Même tes prières. Est-ce que vous croyez que Dieu n'écoute pas certaines prières? Relisez le chapitre 1. Ésaïe, non, c'est pas Malachie, pardon, c'est Ésaïe chapitre 1. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Même ta Mercedes. C'est le chien. Il connaît son maître. Il sait de qui viennent les ordres. Mais Dieu dit, mon peuple ne me connaît pas. Ils sont malades des pieds à la tête. Ils sont corrompus. Pourris. Et ils, les fils de Lévi, présenteront à l'Éternel une offrande en justice. Ça veut dire que celui qui offre, pas ce que tu amènes, mais ce que tu es, celui qui présente l'offrande doit être en justice. C'est pourquoi les fils de Lévi doivent être purifiés. Pas ton offrande doit être purifiée, mais celui qui offre doit être purifié. Celui qui offre, celui qui amène l'offrande doit l'apporter en justice. Darby traduit comme ça. Quel Dieu merveilleux! Quel Dieu merveilleux! J'espère que ça ne va décourager aucun d'entre nous d'apporter. Pourquoi? Parce que nous sommes encore en train d'apprendre et nous aspirons à être lavés et nous voulons célébrer cette fête des pains sans levain pour ôter le levain. Nous voulons marcher avec Dieu dans la paix et dans la justice. Nous apprenons. Tant que tu apprends, ça sera merveilleux. Tant que tu fais des progrès, tu n'es pas encore au collège maintenant. Non, tu n'es pas en train de faire un master, non? Alors, qu'es-tu? Oh, arrête, abandonne. Tu n'es rien. Oublie d'aller à l'école. Laisse tomber. Est-ce que c'est la bonne attitude? Non. Tu continues. Année après année, tu continues. Je me souviens, quand tu étais à l'école enfantine, mais maintenant, à quelle étape en étais-tu? Juste avant le collège. Après, tu vas aller plus loin dans tes études. Tant que tu poursuis, Paul n'était pas parfait. Je vous ai dit hier, il a dit... Je n'ai pas déjà atteint la perfection. Mais il continue, il poursuit. Tant que tu poursuis, que tu continues, c'est bon. Louez Dieu. Ainsi, que le Seigneur nous encourage tous à être comme les fils de Lévi qui sont purifié, épuré. Nous sommes dans le processus d'être sanctifié. Si tu n'es pas dans ce processus ou si tu ne te préoccupes pas et que ta relation avec le Seigneur n'est pas juste, alors notre offrande n'est pas en justice. Et si l'offrande des fils de Lévi sont en justice, alors, l'offrande de tout Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Alléluia. Comme le sacerdoce est important. Je pense que beaucoup de gens ne seront pas capable de prendre cette parole parce qu'ils ne savent pas même pas qu'ils sont sacrificateurs. Ils n'ont même pas envie. C'est égal. J'ai dit à tant de saints, il ne faut jamais forcer les autres à pratiquer ce sacerdoce parce que tu dois voir ce que Dieu veut. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours. Comme quand Lévi était normal, la tribu de Lévi et Aaron et ses fils pratiquaient la sainteté, comme il est dit ici. Ils marchent avec lui dans la justice et ils gardent les ordonnances du Seigneur. Et tout ça. Mais malheureusement, ça c'était
aux anciens jours. Qu'en est-il de maintenant? Qu'en est-il de maintenant? Seigneur. Oh Seigneur. Alors, dans sa deuxième venue, le Seigneur viendra aussi pour apporter le jugement pour les Juifs et les gentils, parce qu'ils ne craignent pas le Seigneur. Vous savez combien de fois dans Malachie, il est parlé de la crainte du Seigneur. Est-ce que tu le crains? Oui ou non? Je te crois. Je te crois. Nous devons tous le craindre. Parce qu'il est Dieu. Spécialement dans sa seconde venue. Si nous ne le craignons pas aujourd'hui, nous faisons tant de choses qui sont contre lui, qui l'offensent, que si nous ne nous préoccupons pas de ce qui va se passer, si nous ne craignons pas le Seigneur, il y a un jugement. Il y a un jugement. Amen. Et le Seigneur dit, je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères. Ne pensez pas que l'adultère et la fornication ne sont pas sérieux. Le Seigneur dit qu'il va juger. Contre ceux qui jurent faussement, ces menteurs. Ils ont de faux témoignages. Contre eux, ceux qui retiennent le salaire du mercenaire. Ils volent les autres. Ils prennent avantage sur les autres. Spécialement par rapport aux veuves et aux orphelins, ceux qui sont plus faibles, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas. Si quelqu'un a vraiment besoin d'aide, dans le Seigneur, on doit l'aider. Pas quelqu'un qui fait semblant. Il faut discerner. Sans quoi tu seras trompé. Non. On doit être sage et discerné. Et tout cela, c'est parce qu'ils ne me craignent pas. Regardez ce qui se passe aujourd'hui parmi le peuple de Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. Ils le mettent même à l'épreuve. Ils disent, où est Dieu? Regardez, nous faisons toutes ces choses mauvaises et rien ne se passe. C'est aussi ce que les sacrificateurs disaient en ce temps-là. Rien ne leur arrive. Et nous, on doit passer par toute cette période difficile. Mais le Seigneur est très merveilleux. Très patient. Louez Dieu. J'espère vraiment qu'on verra le sérieux. C'est l'avertissement de Dieu. C'est l'avertissement de Dieu. Et le Seigneur leur dit, je ne vous ai pas consumé, fils de Jacob. Vous n'êtes pas consumé, mais dès les jours de vos pères, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observés. Combien de temps le Seigneur doit attendre? Dites-moi. Il est si patient. Si nous étions à sa place, nous aurions dit oublie. Ma patience est si courte. Je ne sais pas. Peut-être que un centimètre, peut-être même plus court parfois. Quelle est la longueur de ta patience? Un millimètre. Et le Seigneur leur dit, revenez à moi. Ça, c'est une parole merveilleuse. Pouvez-vous imaginer comme le Seigneur nous aime et il est très patient pour nous. Et je dois témoigner qu'il est vraiment très patient. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à tourner le cœur des pères vers les enfants et les désobéissants à la sagesse des justes? C'est exactement la même chose. Revenez à moi et je reviendrai à vous. N'abandonne pas l'espoir chaque fois. Reviens à lui. Et Dieu le dit aussi par les prophètes. Il y a beaucoup de prophètes. Ésaïe aussi dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Il y a toujours une chance, tant qu'il y a aujourd'hui dans l'âge de la grâce, de revenir à lui. Mais n'attends pas la dernière minute. Parce que tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Le temps est très important pour nous pour gagner Christ. N'est-ce pas? C'est une parole très précieuse, très courte. Très précieuse. Revenez à moi. Faites un tournant complet. Je suis si heureux que dans la ville ici, il y a tant de possibilités de revenir sur ses pas. Si tu loupes une sortie, tu peux revenir, il y a un autre endroit pour tourner. Et si tu loupes l'endroit suivant, il y en a encore un autre. Il y a toujours une manière où tu peux revenir en arrière, mais continue pas à passer à côté. Parce que plus tu vas loin, plus tu devras revenir loin. J'aime cette parole. Revenez à moi. Ce sont des paroles douces. Vous savez, bien que Dieu est si strict et que sa parole est si forte pour eux, et qu'elle est nécessaire, si elle n'est pas forte, on ne va pas changer, on ne va pas se tourner. Tu penses encore que tu as raison. J'ai donné un témoignage une fois, il y a longtemps, lorsque j'étais à Los Angeles. Je conduisais et l'esprit m'a dit, tu es dans la mauvaise direction. Je devais aller, j'allais au nord à la place d'aller au sud ou l'inverse. Et l'esprit, l'onction en moi vraiment m'a dit, tourne. Tu es dans la fausse direction. J'ai dit non, ça ne peut pas être ça. Je ne suis pas dans la mauvaise direction. Pourquoi est-ce que je devrais me tourner? Alors j'ai continué, jusqu'à ce qu'à la fin, je me sois dit, où suis-je? J'ai regardé les signes et j'ai dit, oh, j'ai fait faux. Et j'ai dû aller encore plus loin pour aller trouver la prochaine sortie, puis j'ai dû tourner et revenir en arrière un long chemin. C'est ce qui se passe si je n'écoute pas le Saint-Esprit qui me parle. Parce qu'à ce moment-là, dans la vie de l'Église, tu dois dire au Seigneur, si vraiment tu m'apprends toutes choses et si tu vis en moi, même pour conduire, tu m'enseignes toutes choses. Il m'avait parlé, mais je n'avais pas écouté. J'ai continué à conduire jusqu'à ce que finalement j'ai dû me repentir. Et retourner en arrière. J'ai dû attendre jusqu'à la prochaine sortie encore pour pouvoir revenir en arrière. revenez à moi. Louez le Seigneur. N'abandonnez pas. Nous ne sommes pas encore parfaits. Nous faisons des fautes. Mais il y a toujours une occasion de tourner et de revenir en arrière. Souvenez-vous de cette parole. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Ce n'est pas juste revenir à moi. Mais, et je reviendrai à vous. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais vous dites à nouveau, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Pourquoi est-ce que nous devons revenir? Ça, c'est le problème. C'est vraiment un problème. N'attendez pas. N'endurcissez pas votre cœur. Apprenez à vous repentir, à confesser. Comme 1 Jean 1, 9, verset 10. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous laver de toute iniquité, de toute injustice. Même au chapitre 2. Si quelqu'un pêche, nous avons Jésus-Christ le juste devant le Père. On a un avocat et il est la propitiation pour nos péchés. Alors apprenez à rapidement vous repentir. N'attendez pas. Plus vous le faites vite, mieux c'est. Mais malheureusement, nous disons, en quoi devons-nous revenir? Ça veut dire, je ne sais pas de quoi tu parles, je conduis de la bonne manière ou dans la bonne direction, je ne sais pas de quoi tu parles, pourquoi est-ce que je dois me tourner? Revenir. Si nous pensons faire juste, alors vous ne reviendrez pas. Tu n'as pas besoin de te repentir si tu penses que tu as raison. Alors tu continues sur ton chemin. Si tu fais cela, tu auras des problèmes. Puis, le problème suivant. Ici. Un homme trompe-t-il Dieu? Dieu leur pose une question. Est-ce que tu oses voler Dieu? Pas seulement tu n'oses pas voler Dieu, mais tu ne devrais pas oser voler qui que ce soit. Mais alors encore moins voler Dieu. Mais ces gens, ils volaient Dieu. En donnant pas à Dieu ce qui lui était dû. Et Dieu doit leur poser cette question. Est-ce qu'un homme volera Dieu? Car vous me trompez. Mon Seigneur. Puis ils ont posé la question à nouveau. Ils ont même répondu à Dieu. En quoi t'avons-nous trompé? Volé. De quoi tu parles? En quoi t'avons-nous volé? Comment? Dieu dit. Dans les dîmes et les offrandes. Les dîmes. Le meilleur des produits du pays, le vin, l'huile, le maïs, tout ça, le dixième doit être donné à Dieu. Dieu dit, cela m'appartient. Parce qu'il y a tant de besoins. Dans le temple, dans la maison de Dieu. Tant de lévites. Souvenez-vous que les lévites n'ont pas d'héritage. Dieu est leur héritage. Ils n'avaient pas de morceaux dans le pays. Parce qu'ils faisaient beaucoup de services dans le temple. Maintenant, malheureusement, cette question de la dîme est devenue un grand problème. C'est devenu un grand, grand problème. Premièrement, ce n'est pas le temple de Dieu, mais c'est une organisation faite par l'homme. Ainsi, à qui est-ce que tu donnes ? À Dieu ou à l'organisation ? Afin qu'il puisse avoir un édifice plus grand. La salle de réunion, une fois que j'ai vu à Vancouver, ils m'ont amené à leur réunion. Il y avait terrain de basket. Il y avait de la gymnastique. Et bientôt, vous pensez que dans le temple de Dieu, Dieu utilisera la dîme pour mettre un court de tennis pour que les sacrificateurs puissent jouer du tennis pendant leur temps libre, une table de billard. Qu'en est-il de cela? Un terrain de basket. Et celui qui me faisait visiter, il était si fier. Regarde quelle salle de réunion merveilleuse nous avons. C'est vraiment étonnant. Est-ce que tu vas soutenir cela? Oui, ce dont Dieu t'a béni, tu dois le redonner à Dieu. Mais tu dois le donner en discernant. Parce que Seigneur. Ici, nous avons un piano, c'est un Yamaha. Pour Dieu, il faut un Steinway. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que Dieu a besoin d'un Steinway? À la fin, cette organisation a tant d'édifices. Et même je connais une organisation qui a bâti un édifice aux Far East. Et les deux premiers étages ont été loués pour une banque. Est-ce que ça, c'est la dîme? Et ils ont demandé de l'argent, puis tu n'as pas d'argent juste maintenant? Alors tu écris sur un billet. Est-ce que tu penses que Dieu veut qu'Aaron et ses fils soient millionnaires? Ce pasteur a 3 jets. 2, ça ne lui suffisait pas. Il en a 3. Parce qu'il voulait un avion qui ne s'arrête pas. Et Aaron doit avoir une Mercedes ou une Maybach. Et ses fils doivent avoir des bimères. Qu'est-ce que tu en penses? Et voler en première classe. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire pour ta dîme? Donner la dîme de manière correcte, c'est ça, c'est juste. Mais ce que tu possèdes, tout ce que tu possèdes, appartient à Dieu. Tu es un serviteur de Dieu, ne jette pas ton argent par la fenêtre. Ne le gaspille pas. N'essaie pas de rendre Aaron riche et ses fils. Ne rends pas l'organisation si grande. Non. Tu es un serviteur fidèle. Aide les pauvres c'est beaucoup mieux que de rendre Aaron riche. Parce que si tu rends Aaron riche, tu vas le détruire. Est-ce que tu penses ça? Est-ce que c'est pas vrai? Oui. Est-ce que le Seigneur a bâti un grand édifice? Où est-ce qu'il se réunissait? Sur la montagne? Trouve une montagne, on se réunira là-bas. Rencontrez-vous dans les maisons, soyez simples. Soyez simples. Louez le Seigneur. Est-ce que tu es un intendant, un bon intendant du Seigneur? Et demande au Seigneur, où est le besoin? On veut aider. Ceci et ça, ce qui vient de toi, oui. Ça, c'est la dîme. Mais ce n'est pas ce que certains disent. Vous devez même ouvrir vos comptes. Les témoins de Jéhovah, les Mormons, ils viendront chez toi. Ils envoient leurs propres auditeurs. Et te disent, montre-moi tes comptes et montre-moi ton compte en banque, le 10%. Qu'en est-il de cela? Tu as meilleur temps de fermer ta porte à clé, parce qu'ils viennent de porte en porte. Non, ce n'est pas comme ça. Mais tu donnes à Dieu ce que Dieu veut de toi. Et c'est tout. De toute façon, tout ce que nous avons lui appartient. Et regardez Paul. Paul n'a rien demandé. Il n'a même pas demandé à être soutenu. Il faisait confiance à Dieu. Dieu est notre héritage. Dieu est ton héritage. Pourquoi est-ce que tu te fais du souci? Mais nous devons tous apprendre à donner à César ce qui appartient à César et à donner à Dieu ce qui appartient à Dieu, n'est-ce pas? Tu payes tes impôts, n'est-ce pas? Oui, parce que sinon ils viendront frapper chez toi. Mais tu donnes à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Je n'aime pas entrer là-dedans. Mais vous devez réaliser qu'aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui n'est pas normale. Parce que ce les gens donnent. Je vous donne un exemple. Pardon, c'est presque l'heure. Regardez cette cathédrale de cristal. Combien de chrétiens ont donné de l'argent pour cette cathédrale en cristal? Et après un certain temps, tout le groupe s'est dissous. Et ils ont dû vendre cette salle de réunion. Et qui l'a acheté? L'Église catholique l'a acheté. Les Allemands diraient tout ça pour les chats. Nous, on dit tout ça pour rien. Nous ne sommes pas comme ça. Non, nous devons connaître le Seigneur et lui donner ce qui lui est dû. Mais pas le faire de manière qui n'est pas sage, sans lui demander son discernement. Oui, louez le Seigneur. Puis le Seigneur dit, amenez toutes les dîmes dans sa maison. Si ce n'est pas sa maison, ne l'amenez pas, ne donnez rien. Portez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ça suffit. Il dit afin qu'il y ait de la nourriture, assez de nourriture. Il ne dit pas qu'il y ait un grand chiffre d'affaires, non, mais pour qu'il y ait de la nourriture. Est-ce que ça ne suffit pas s'il y a de la nourriture dans la maison? Est-ce que tu dois être milliardaire? Est-ce que tu as besoin de 10 voitures? Est-ce que tu as besoin de 2 Mercedes? Non, ce n'est pas nécessaire. Spécialement dans la maison de Dieu. Mais pour les besoins, ça suffit. Sinon, tout sera corrompu. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Il est l'Éternel des armées, tout lui appartient. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et il n'y aura même pas assez de place pour tout recevoir. Tout ça. Le Seigneur te bénira de beaucoup de manières. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il menacera les rats, les sauterelles, les abeilles, les fourmis, les souris. Et ils laisseront ton jardin tranquille. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Laissez-moi vous dire, toutes ces bénédictions sont des bénédictions spirituelles célestes en Christ Jésus. Et il y aura de la nourriture spirituelle dans la maison de Dieu. La nourriture de Dieu dans sa maison viendra de tous les saints. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Il y aura assez de nourriture spirituelle pour chacun. Amen. Ainsi, on s'arrête là. Ne volez pas Dieu. Ne le volez pas. Et ne volez personne. Louez le Seigneur. Le Seigneur est vraiment, vraiment merveilleux. Mais je crois que ce dont nous avons besoin aujourd'hui dans la maison de Dieu, c'est vraiment la nourriture spirituelle et que chacun de nous peut y contribuer. Parce que maintenant, nous sommes les fils de Lévi. Lorsque nous venons à la table du Seigneur, chacun vient préparer. Il y a sa parole concernant les fêtes, le pain sans levain, et quelqu'un d'autre vient à la réunion préparer pour la fête des prémices, alléluia. Et toi, tu viens avec une préparation merveilleuse de la fête de Pâques. Tu apportes du blé, puis quelqu'un apporte le jour de la Pentecôte la moisson du blé. On peut apporter toute cette nourriture spirituelle merveilleuse. Puis, à la dernière moisson, dans les 3 dernières fêtes, on peut tous apporter quelque chose à la réunion. On se réjouit de la fête des tabernacles. Chacun se réjouit de ceci ou de cela. Sans personne qui te force à le faire, mais tu l'apportes parce que tu aimes apporter quelque chose à Dieu. Tu veux contribuer à apporter de la nourriture dans la maison de Dieu. Est-ce que ce n'est pas le cas? Tu aimes apporter une offrande au Père. Tout ça, c'est de la nourriture.
L'holocauste, l'offrande de farine, de paix, par agitation, par élévation. L'offrande pour le péché, pour les transgressions, la libation. Est-ce que tu ne veux pas apporter toute cette nourriture? Est-ce que tu préfères que quelqu'un soit debout là pour te donner un message et nous sommes tous là et nous nous endormons? Chacun peut apporter quelque chose. C'est pourquoi, souvent, vous pouvez tous témoigner. Je vous ai encouragé. Soyez préparés. Préparez quelque chose. N'est-ce pas? Ce sera une réunion merveilleuse. Elle sera si riche. Mais nous disons, qu'est-ce qu'on peut apporter? Non. Apporter de la nourriture à la maison de Dieu. Qui est un intendant sage et fidèle qui préparera quoi? De la nourriture au bon moment pour la maison de Dieu. C'est bon de préparer de la nourriture, n'est-ce pas? Tu peux imaginer si chacun apporte une petite chose. Ça n'a pas besoin d'être beaucoup, n'est-ce pas? Tu as 7 jours pour préparer. Tu commences dimanche après-midi, premier jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Tu peux préparer de la nourriture. C'est le cœur qui compte. N'est-ce pas? Alors l'Église sera bénie par le Seigneur parce qu'il a tant de nourriture. Ok? Alors la réunion sera si riche? Amen. Alors nous serons une bénédiction pour tant de gens. Beaucoup de chercheurs, en venant, verront tant de nourriture spirituelle. Dieu est satisfait, nous sommes satisfaits. Dieu sera glorifié. Est-ce que ce n'est pas une bonne manière? Pourquoi est-ce une bonne manière? Parce que c'est la manière de Dieu. Parce que c'est la manière de Dieu. Je rigole pas. Laissez-moi vous donner une petite expérience de cette question du sacerdoce. Il y a quelques années, quelque part en 2014, en juin ou juillet, dans ce temps-là, j'étais à Bangkok pour une conférence. Et après cela, j'étais invitée à aller ailleurs, après Bangkok. Et je me plaignais envers Dieu. J'ai dit, Dieu, pourquoi? Tu aurais dû leur donner quelques frères qui pouvaient vraiment porter le fardeau du ministère, de la parole de Dieu. Le ministère de la Nouvelle Alliance. Pour faire court, Dieu m'a repris. Le Père m'a repris. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est la bonne manière? Tu es venu d'un groupe qui a quelqu'un qui dit qu'il a le ministère de la Nouvelle Alliance et qu'il est l'apôtre, l'oracle de Dieu et tant de messages sont donnés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi ce qui s'est passé. Beaucoup de bénédictions. Si tu comptes le nombre et l'argent, ça c'est la bénédiction. Mais je n'ai rien à dire. Mais où est l'édification? J'ai dû me repentir. Et le Seigneur m'a dit très clairement, ce dont j'ai besoin, c'est le vrai sacerdoce. C'est comme ça que cela a commencé. Louez Dieu. C'est vrai, la vérité. Le Seigneur est mon témoin. Louez le Seigneur.
Dans le résumé, il y a une erreur. Au point 9b2, ça doit être pour amener le jugement sur tous ceux qui font le mal, juifs et païens, parce qu'ils ne craignent pas l'Éternel.